100 ans d'histoire. Innovation scientifique, relations internationales et succès culturel. Jean Saraméa, historien, raconte les années décennales anniversaires de 2024.
Bonjour à toutes et à tous. Que s'est-il passé d'important il y a 300 ans, en 1724? Vous allez vite comprendre que c'est un monde très éloigné de ce que nous vivons, bien sûr. Au niveau international, c'est la dernière année de règne du grand tsar russe Pierre le Grand. Catherine de Russie viendra peu de temps après. À Vienne, c'est l'achèvement du belvédère, qui est un des immeubles les plus caractéristiques de la Vienne historique. Et en Espagne, bon, à 41 ans, c'est le petit-fils de Louis XIV qui est roi d'Espagne sous le nom de Philippe V. Alors en France, Louis XV a 14 ans. Il est né en 1710. Il est arrivé au pouvoir tout gamin, puisque Louis XIV est mort en 1715, et il a besoin, même si cette année, 1724, il atteint la majorité royale, les rois étaient majeurs à 14 ans, il a besoin d'être largement conseillé. Et les deux conseillers principaux jusque-là, qui étaient le régent et le cardinal Dubois, ben, sont morts l'année précédente, de telle sorte que en 1724, c'est le duc de Bourbon qui ne va être, disons, conseiller principal de Sa Majesté que pendant 3 ans. Cette année-là, c'est l'ouverture de la Bourse de Paris, avec ce qui existe toujours, le monopole des agents de change. Alors, restons un petit peu dans l'économie. La France a 24 millions d'habitants, Paris a 500 000 habitants. Pour l'époque, c'est vraiment une grande capitale. L'espérance de vie connaît une progression assez nette, si tant est que, quand on est à l'époque, les bébés aient le temps de survivre. Mais pour les adultes, les démographes voient que, à partir des années 1720, l'espérance de vie s'accroît. C'est la fin des grands hivers, il y aura encore des hivers rudes au XVIIIe siècle, mais à partir de 1709, qui a été l'hiver millénaire, c'est-à-dire l'hiver le plus grave, le plus long et le plus terrible sur 1000 ans, sur 10 siècles. Mais à partir de 1709, il n'y a plus d'hiver capable de provoquer des centaines de milliers de victimes et de bloquer l'économie. Il n'y a pas encore la culture de la pomme de terre. Parmentier, il faut encore attendre un bon demi-siècle, sinon plus. Par contre, se développe en France la culture de ce qu'on appelait le blé noir, c'est-à-dire le sarrasin, qui s'adapte facilement aux terres plutôt acides, aux terres pauvres, donc Massif central, Massif armoricain, entre autres. Le vin est une production importante. On a pu calculer que, à Paris, un adulte consomme 150 litres de vin par an. Il y a une rapide modernisation. Sous le règne de Louis XV, il va y avoir de gros efforts pour un réseau de canaux. On est un siècle avant les premiers chemins de fer. Et les canaux vont être très développés pour transporter ce qui est lourd. Les céréales, le début du charbon, le bois, tout ce qui est nécessaire pour approvisionner les villes. Louis XVI vient de créer, en 1716, le corps qui existe toujours, le corps national des ponts et chaussées. Et il va donner l'ordre à ce grand corps de l'État d'améliorer le réseau routier parce que c'est très lent. Il y a eu très peu de nouvelles routes et très peu d'améliorations. Écoutez, par le moyen le plus rapide, qui n'est pas la diligence. La diligence, c'est lourd et lent. C'est un peu la malle-poste ou la chaise de poste qui transporte les plis de l'État, les ordres. Il faut 11 jours pour faire Paris-Strasbourg. 11 jours pour faire Paris-Marseille, parce qu'au sud de Lyon, on descend le Rhône, donc on se laisse porter par le courant, ça permet de gagner quelques jours. Il faut quand même 6 jours pour faire Paris-Lyon. Il faut 15 jours pour faire Paris-Bordeaux. Il faut 2 heures en TGV, à l'heure actuelle, pour faire Paris-Bordeaux. 2 heures. On voit bien. Depuis Colbert, donc règne de Louis XIV, se sont développées des industries qui sont importantes, célèbres, exportatrices. Ce sont les Gobelins pour les tapisseries, pour le tissage, pas seulement, et Saint-Gobain. Saint-Gobain, au nord de Paris, ce sont les vitres, les verres. Sans la manufacture de Saint-Gobain, il n'y aurait pas eu de Galerie des Glaces à l'époque. Et puis la flotte. La flotte française a été privilégiée. Colbert a sélectionné les meilleurs futaies dans les grandes forêts de France. Et au XVIIIe siècle, se développe rapidement. D'autant plus que la flotte française ne sera pas détruite jusqu'à Trafalgar, XIXe siècle, dans des grandes batailles. La flotte française, qu'on appelle la Royale, va permettre de développer le commerce, quand ce sont des bateaux commerciaux, vers les Antilles. C'est de là que vient le sucre. C'est une économie esclavagiste comme font les Anglais, les Portugais, les Espagnols. Et ça va surtout permettre en Méditerranée d'améliorer le commerce. Marseille est le grand port de commerce français, en diminuant cette terrible piraterie qui, depuis des siècles, faisait qu'on ne vivait quasiment pas au bord de mer et qu'une bonne partie des trajets commerciaux étaient diminués en termes financiers par la piraterie. Et puis enfin, puisque c'est la famille des Bourbons qui est maintenant à la tête du royaume d'Espagne, la France s'est ouvert le marché espagnol et une bonne partie du marché d'Amérique du Sud. Donc ça permet un commerce à long terme, sans oublier les comptoirs des Indes, que la France va avoir jusqu'en 1954. Et quand on dit que le sucre provient de Saint-Domingue, attention, la grande île est coupée en deux, hein. Saint-Domingue, espagnol à l'est. Quand on dit, mais dans tous les écrits en France au XVIIIe, on dit Saint-Domingue pour la France, c'est Haïti, qui est toujours de langue française. La monnaie est stabilisée et la monnaie ne variera plus en termes de référence par rapport à l'or et l'argent jusqu'à la Révolution française. Ça veut dire que les entreprises, le commerce, peut tabler sur une monnaie française stable, régulière et point trop affectée par une conjoncture défavorable. Dans le domaine scientifique et culturel. Alors, dans le domaine scientifique, Newton. Newton a encore 3 ans à vivre, il a 82 ans, et il est évidemment célèbre dans toute l'Europe, la loi de la gravité, etc. Montesquieu a 35 ans, il est très célèbre en France, car 3 ans plus tôt, il a fait paraître les lettres persanes, que nous avons un petit peu étudiées en première, je pense. Il fait des études de droit, il habite près de Bordeaux, mais il est déjà fort célèbre. Voltaire a 30 ans. Pour l'instant, il écrit quelques comédies qui n'auront pas beaucoup de postérité, et c'est un poète mondain qui n'est pas encore rayonnant et connu comme il le sera dans les décennies qui suivent. Un écrivain célèbre, Alain Lesage, qui écrit en 1724 Gil Blas de Santillane. C'est un roman que j'avais lu quand j'étais au lycée et qui m'avait beaucoup plu parce que c'est un roman humoristique mais en même temps pétri de morale philosophique. Et il s'était rendu célèbre par sa pièce de théâtre Turcaré. Fontenelle, qu'on ne lit plus, mais qui était un grand scientifique, qui était secrétaire de l'Académie des sciences, qui avait mélangé littérature, science, philosophie, poésie. Il a 67 ans et il ne sait pas qu'il va vivre jusqu'à 100 ans. C'est rare à l'époque. On lui prête, je ne sais pas s'il a vraiment prononcé quand il a été très malade à l'âge de 100 ans, on lui a dit « ça vous fait quelque chose ?» Il a dit « oh, je me regrette ». C'est mignon. Autrement, Marivaux a 36 ans. Cette année-là, il écrit « L'île des esclaves ». On se presse dans les théâtres où sont jouées des pièces alertes, dynamiques, centré sur les relations entre maître et serviteur, mais avec une philosophie féministe rare, qui n'existait pas au XVIIe siècle, mais qui fait que Marivaux est toujours souvent joué à la Comédie-Française à Paris, à l'heure actuelle. Dans la peinture, c'est Jean-Baptiste Chardin qui commence à peine à se faire connaître, il a 25 ans. En Italie, c'est Canaletto. C'est le grand peintre de Venise qui peint des vues des îles de la lagune vénitienne et de Saint-Marc, bien sûr. Il a 27 ans, mais il a un énorme succès parce que les personnes qui viennent visiter Venise lui achètent, comme on achèterait de nos jours des cartes postales, lui achètent les petits formats de son immense production. Sculpteur, il a 26 ans, il commence à sculpter des bustes qui seront célèbres en France, c'est Edmé Bouchardon, qui sera le principal sculpteur français du XVIIIe siècle. Alors, la musique. Ah, la musique, dans le monde germanique, c'est Jean-Sébastien Bach, 39 ans. Il vient d'être nommé maître cantor à Leipzig, et en tant que tel, il doit composer une cantate par semaine. Mais cette année 1724, une de ses œuvres principales, La Passion selon Saint Jean. C'est en Italie Scarlatti, Alessandro Scarlatti, 64 ans. Et il crée beaucoup d'opéras, spécialement à Naples. C'est Albinoni, dont on écoute toujours le célèbre Adagio, Tommaso Albinoni, 53 ans, qui est toujours joué, écouté, avec des symphonies, des sonates. Bon, en France, c'est Jean-Philippe Rameau. Jean-Philippe Rameau, qui est peut-être notre meilleur compositeur du XVIIIe siècle, au moins la première moitié, il a 41 ans, musique de théâtre, symphonie. Il est en train de rédiger cette année-là un livre sur le fonctionnement du clavecin, un traité d'harmonie. Jean-Philippe Rameau, c'est vraiment notre grand compositeur, oui, de la première moitié du XVIIIe siècle. Autrement, eh bien, originaire des pays germaniques et s'étant transféré à la cour de Londres, c'est Handel. Handel, qui a 39 ans, qui est depuis 3 ans en Angleterre et qui va être le grand compositeur anglais à la cour du XVIIIe siècle. Mais bon, c'est peut-être le plus connu en France, ben c'est Antonio Vivaldi. Vivaldi qui a 46 ans et qui, cette année-là, c'est un grand violoniste, et cette année-là achève les 4 saisons. 4 saisons dont les partitions vont être oubliées et les partitions ne seront redécouvertes que vers le milieu du XXe siècle. Donc pendant plus de 2 siècles, Vivaldi est pas totalement oublié, surtout en Italie, mais il n'a pas du tout la célébrité européenne qu'il a 3 siècles après. Alors, si on peut écouter quelques mesures de l'automne, merci de votre écoute.